Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour Enquête d'Esprit. Le 2 février, il y a deux jours, c'était la Chandeleur avec ses traditionnelles crêpes. Mais on sait moins que c'est aussi, et d'abord, une fête religieuse qui met particulièrement à l'honneur la vie des religieux et des religieuses. Ceux-ci sont encore environ 25 000 en France, mais on les voit peu et pour cause. Ils constituent des communautés discrètes, en partie détachées du monde. Elles ont donné leur vie au Christ et elles ne sont pas sous les projecteurs, du moins habituellement. Discrets, les religieux sont pourtant essentiels à notre société par leur prière, leur travail et leur service des pauvres. Parfois même signe de contradiction, ces religieux sont-ils le supplément d'âme dont notre monde a besoin? C'est en tout cas notre sujet d'aujourd'hui et avec moi pour entrer dans ce monde inconnu de la plupart de nos contemporains. Bonjour Véronique Jacquier.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Les invités pour parler de ce beau thème de la vie consacrée. Sœur Élise, religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, le père Philippe Lefebvre, dominicain, et puis Daniel Audon-Hurel, qui est spécialiste de l'histoire religieuse.
Voilà, nous retrouvons donc nos invités dans un instant pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Somaya Labidi. Bonjour Somaya, les infos religieuses de la semaine avec vous. Et on commence par l'avortement dans la Constitution et la réaction des chrétiens.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Absolument, c'est une validation qui est au cœur des inquiétudes de l'Église, mais aussi de certaines femmes qui rappellent le traumatisme qu'engendre un tel acte. C'est le cas de Cécile, mère de 3 enfants et qui a choisi d'avorter il y a une dizaine d'années avant de se convertir. Écoutez.
C'est comme c'est légal en fait, on n'arrive pas à s'autoriser, on ne comprend pas qu'on soit mal puisqu'on a fait quelque chose qui est légal. Alors qu'en fait, on est vraiment mal. On a une souffrance et une détresse psychologique qui est énorme, qui nous met donc dans un état physique qui est parfois lamentable. Certaines femmes disent qu'elles ont mis 7 ans, 14 ans en fait, à pouvoir retrouver un chemin de vie normal. Et ce qui est compliqué, c'est quand en fait c'est quelque chose qui est légal, on est encore plus isolé. Le problème, c'est l'isolement des femmes, parce que c'est pas vraiment, ça paraît pas logique, puisqu'on a choisi nous-mêmes de faire quelque chose, c'est compliqué d'être triste alors que c'est nous qui l'avons choisi.
Dans le reste de l'actualité, l'Église au chevet des agriculteurs, une quinzaine d'évêques appellent à une valorisation du métier et à une politique agricole plus juste et durable. Et sur les points de blocage, des prêtres bénissent les tracteurs et transmettent un message chrétien d'espérance. C'est le cas du père Thierry Louis, rencontré sur l'autoroute du Nord.
J'ai travaillé, hein. Moi j'ai une carrière professionnelle normale de 44 annuités de travail, hein. J'ai fait plusieurs métiers avant d'être prêtre et donc je sais ce que c'est que travailler, je sais ce que c'est que devoir remplir un frigo et donc je comprends que quand on n'est pas payé au juste prix, c'est pas normal. Et je pense qu'on est là aussi pour soutenir dans les joies et dans les épreuves nos paroissiens. Alors tous ne sont pas paroissiens, mais ça fait partie de ma communauté. Dire du bien des gens, c'est notre travail à nous. On est là pour dire du bien sur les gens, de demander la grâce de Dieu sur les gens, voilà.
À la une de l'actualité internationale, c'est 8 morts dans une attaque contre une église pentecôtiste de l'est de la République démocratique du Congo. Une attaque perpétrée par un groupe terroriste affilié à l'État islamique et qui retient une 30aine de personnes en otage. Direction la Turquie à présent, où une église catholique italienne a été attaquée dimanche dernier en pleine messe, peu après l'offertoire. Récit de Clotilde Payet et Éloi Rochebrune.
Filmé par les caméras de vidéosurveillance, les deux assaillants pénètrent à l'intérieur de l'église. Quelques secondes plus tard, ils ouvrent le feu sur les fidèles en pleine messe. Peu de temps après, le gouverneur d'Istanbul fait le bilan.
Un citoyen âgé de 52 ans, né en 1972, est décédé. Deux hommes masqués ont attaqué l'église. La police poursuit son enquête.
Le mobile de cette attaque reste inconnu, mais l'événement a marqué le pays. Au Vatican, le pape François a réagi et a exprimé son chagrin.
J'exprime ma proximité avec la communauté de l'église Santa Maria à Istanbul qui a subi pendant la messe une attaque armée qui a fait un mort et plusieurs blessés.
Les chrétiens en Turquie sont passés de 20% à moins de 0,5% de la population en un siècle. Et le régime du président turc Erdogan accentue la pression. Dernier événement en juillet 2020, la basilique Sainte-Sophie transformée en mosquée, symbole fort de l'islamisation du paysage turc.
Et puis après plusieurs mois de tensions, le Vatican et la Chine s'accordent sur l'ordination de plusieurs évêques. Toutefois, les autorités ecclésiastiques restent prudentes car la persécution des chrétiens reste importante dans l'Empire du Milieu. Je vous rappelle que de nombreux prêtres et évêques sont portés disparus depuis plusieurs années dans le pays. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité de la semaine, Aymeric.
Merci beaucoup, Somaya, pour ces infos d'Enquête d'Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la vie consacrée des religieux et des religieuses en France. Pourquoi ont-ils tout donné pour le Christ? On en parle avec Sœur Élise. Bonjour, Sœur Élise. Merci Bonjour. D'être avec nous. Vous êtes religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. C'est une congrégation fondée par Sainte Jeanne Jugan au XIXe siècle pour accompagner les personnes âgées. Évidemment, c'est une vocation prophétique pour aujourd'hui aussi. Les Petites Sœurs des Pauvres sont présentes dans le monde entier. Vous avez vécu notamment au Pérou et actuellement, vous œuvrez à la formation des jeunes novices à Paris. Avec nous également le Père Philippe Lefebvre. Bonjour mon Père.
Bonjour.
Vous êtes dominicain. Vous avez 33 ans de vie religieuse dans cet ordre fondé par Saint Dominique au XIIIe siècle, un ordre de prédicateurs, notamment dans les universités pour prêcher la bonne parole. Et vous êtes vous-même bibliste, professeur d'écriture sainte à l'université de théologie de Fribourg, c'est en Suisse. Vous nous parlerez donc de votre engagement de religieux et de son ancrage aussi dans la Bible. Et puis avec nous également Daniel Audon-Hurel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire religieuse, notamment de cet ordre particulier, les bénédictins, qui a une longue histoire. Vous avez dirigé notamment cet ouvrage, cette somme, pourrait-on dire, les bénédictins, chez Robert Laffont Bouquin. Et puis, Véronique Jacquier, je rappelle que vous êtes journaliste. Vous nous parlerez notamment de Saint Bernard, un religieux, un moine célèbre qui a été canonisé il y a 850 ans et qui a profondément réformé son ordre monastique, notamment par son désir d'absolu. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors, commençons par le commencement, si j'ose dire, c'est-à-dire la Chandeleur, la fête donc, que nous avons célébrée il y a deux jours, qui est une fête de la lumière, mais qui est aussi une fête d'origine païenne. Autrefois, les paysans portaient des flambeaux pour purifier la terre. Ensuite, ça a été repris par l'Église, c'est 40 jours après Noël, la fête de la présentation de Jésus enfant au temple, où les fidèles, au cours de la messe, allument des bougies. Alors, Père Philippe Lefebvre, première question pour vous. L'Église a christianisé une fête païenne, elle le fait souvent. Quelle est la signification de cette lumière, de cette fête de la lumière?
Alors, c'est la manifestation du Christ comme lumière, ce qu'on chante aussi pendant la nuit de Pâques, la lumière du Christ. Et puis, avec lui, il y a la mise en lumière de tout un petit monde qui passe inaperçu habituellement. La prophétesse Anne, qui accueille l'enfant et ses parents au temple, le Siméon, le vieillard, et tout un peuple de l'Ancien Testament qui affleure, on peut dire, qui est mis en lumière parce que des paroles que l'on échange ce jour-là sont en fait des paroles que l'on se dit depuis Abraham, Sarah et beaucoup d'autres personnages de la Bible. Donc, mise en lumière de tout un peuple.
Véronique ?
Mais parce que dans l'évangile du jour du 2 février, donc de la présentation de Jésus au temple, il est dit que Jésus est la lumière du monde, on le présente comme tel.
Oui.
Mais alors quel rapport avec la chandeleur ? Chandeleur, ça vient de candela en latin, non, qui veut dire cierge, mais quel rapport avec les crêpes alors ?
Alors là,
s'il y en a, d'expliquer.
S'il y en a,
avec
oui,
les... ça, je pense que ça fait partie des traditions anciennes, sans doute avec le soleil qui revient peu à peu après l'hiver, même si on y est encore, la crêpe qui est une sorte d'imitation du disque solaire. Et donc il y a, et c'est une fête pour cela très intéressante, ce croisement entre le Christ et tout son enracinement biblique et puis des traditions, en effet, quand l'hiver commence à passer, même si on y est encore, la lumière revient, les jours rallongent, eh bien, on va fêter ça et puis donner tout son sens, la plénitude du sens à cette lumière qui revient en disant « c'est le Christ ».
Sœur Élise, cette fête donc de la Chandeleur n'est pas celle qui est la plus mise en valeur, on va dire aujourd'hui, dans le calendrier chrétien. Et pourtant, est-ce qu'elle mérite de l'être davantage? Et aussi, pourquoi est-ce qu'elle est importante, notamment pour vous, les religieux et les religieuses?
Elle est importante parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la Journée mondiale de la vie consacrée. Donc ça met en lumière aussi...
Ça, c'est depuis 1997.
C'est ça, ça met en lumière un petit peu ceux qui suivent le Christ, qui suivent Jésus, lumière du monde. Mais voilà, ça met en valeur un petit peu ce don depuis très longtemps d'hommes et de femmes qui donnent tout pour le Christ.
Et ça vous touche particulièrement? Ça vous vous sentez particulièrement lors de cette fête, je dirais, concerné par justement tout ce qui est mis en valeur, cette lumière notamment, ces bougies? Qu'est-ce que ça évoque chez vous?
Bon, pour moi, c'est la vie consacrée, c'est vraiment un signe lumineux. Lumineux parce qu'il y a la joie. La vie consacrée sans la joie, quand on donne toute sa vie à Jésus et aux pauvres, ça donne une joie profonde que rien ni personne peut nous enlever. Et peut-être aussi dans lumineux, quelque chose de prophétique. Vous voyez, un prophète, c'est celui qui regarde l'horizon et qui envisage l'avenir avec espérance, qui montre le ciel, un petit peu comme quelqu'un qui regarde le ciel mais qui a les pieds sur terre. Vous voyez, et en même temps, donc quelqu'un qui voit loin, la vie consacrée élargit le regard pour montrer aux hommes en fait la finalité de la vie, c'est le ciel. Et en même temps, un prophète, c'est celui qui, un peu comme Siméon, qui discerne la présence de Dieu dans ce qui est simple, ce qui est petit, ce qui est faible, ce qui est fragile. Vous voyez, ça, c'est un signe lumineux.
Et le paradoxe, c'est qu'on ne le voit pas forcément, tout ce monde religieux. On peut croiser effectivement des religieuses ou des religieux dans la rue, mais enfin, il y en a quand même aussi certains qui vivent derrière une clôture, dans des monastères. Daniel Audon-Hurel, finalement, est-ce que vous avez le sentiment, de votre point de vue d'expert, d'historien de ce monde religieux, que c'est un tissu souterrain, mais qui irrigue la vie de l'Église et plus largement la société dans son ensemble? Et y compris à travers l'histoire, d'ailleurs.
Oui, ben oui, certainement, C'est le temps long, c'est le temps long de l'histoire de l'Église, du christianisme, en particulier le monachisme, qui sur ce temps long et qui réunit à la fois les fondamentaux orientaux et l'Occident avec Benoît et avec toute la tradition, pour s'en tenir à cette tradition bénédictine, c'est visible et invisible, mais ça a été quand même assez largement visible, ne serait-ce que parce que les moines et les moniales, même séparés du monde, ont toujours été quelque part en lien, en permanence avec le monde.
Ce blanc manteau d'église aussi, l'expression voilà, est devenue célèbre à travers la France et l'Europe.
Oui, tout à fait.
Par les moines.
Par les moines, et c'est cette espèce d'idée que finalement, le don qu'ont fait ces milliers et que font encore ces milliers de moines et de moniales dans le silence de la contemplation, c'est aussi quelque chose de très actif, quelque part, et en rapport avec le monde. Et parce que ces gens, moines et moniales, et Benoît le premier, ils sont sortis, ils sont nés dans un monde donné, dans une société donnée, ils ont construit à partir de cette société.
Saint Benoît, donc le fondateur des Bénédictins.
Le fondateur des Bénédictins. Et voilà, je pense que c'est tout à fait important. Oui.
Alors, Père Philippe Lefebvre, vous l'avez dit, c'est une fête, la présentation donc de Jésus enfant au Temple, qui plonge aussi ses racines dans le judaïsme. Elle n'est pas née comme ça par l'invention des chrétiens. Elle était aussi appelée auparavant la fête de la purification de la Vierge Marie, parce que la mère de l'enfant devait être purifiée aussi. Quel en était le sens, justement, dans le judaïsme?
Purification, alors pour nous, ça veut dire enlever quelque chose qui serait impur dans un sens moral, mais ça n'est pas le cas. C'est-à-dire la naissance avec le sang, l'effort physique fourni, demande un temps de retraite, de retrait. Et c'est tout cela qui contribue à exprimer ce que c'est que la purification. Et puis c'est aussi un contact particulier avec la puissance de vie qui vient de Dieu. C'est-à-dire un enfant qui naît, c'est toujours très impressionnant et il faut du temps à la fois pour s'en remettre, l'enfant, la mère, le père même éventuellement, et puis se dire qu'on a eu une espèce de corps à corps avec Dieu. Et il faut du temps pour revenir dans le monde social habituel. Alors ce que j'aime aussi beaucoup dans cette fête, c'est tous ceux qui participent dans l'évangile de Luc, des gens âgés, la prophétesse Anne, Siméon, le bébé Jésus, les parents, et puis il y a les cousins qui sont pas
c'est
loin.
C'est une fête de la famille.
Fête de la famille, mais au sens large du terme, avec des gens qu'on ne voit pas habituellement et qui apparaissent là.
Véronique.
Mais pourquoi Jésus, présenté, reconnu plutôt par Siméon comme le Messie, lumière qui doit éclairer le monde, devait-il être purifié, était présenté pour être purifié ?
Présenté à Dieu, c'est-à-dire manifesté comme venant de Dieu et d'une certaine manière trouvant son lieu qui est le temple. Vous savez, on a dit dans l'évangile de Luc, juste avant la naissance de Jésus, il n'y avait pas de lieu pour eux à l'hôtellerie. Et son lieu, ils le trouvent en quelque sorte au temple. C'est là où est Dieu. Hein. Et après, on dira que Jésus, par exemple, à Nazareth, quand il a une trentaine d'années, après son baptême par Jean, on lui tend le rouleau de la loi, c'est le rouleau de Moïse, et il trouva le lieu où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc son lieu, c'est le temple, c'est la parole, et puis il y a un autre lieu que l'évangile de Luc appelle vraiment lieu, c'est la croix. On l'emmena à un lieu qui s'appelle Golgotha, et c'est là qu'il est crucifié. Donc, et tout ça n'en fait qu'un, c'est-à-dire le temple, la croix, la parole, c'est son lieu, voilà.
Alors il y avait aussi cette coutume juive hein, d'offrir tout enfant premier-né à Dieu. Il y a, sœur Élie, ce choix que vous avez fait hein, d'engagement dans la vie religieuse qui là aussi vous offrait finalement totalement à Dieu. C'est un choix qui aujourd'hui dans notre société est totalement à contre-courant. Et qui paraît même étrange à nos contemporains.
Oui, ça c'est vrai. C'est un signe contradictoire dans ce sens-là. Je crois que la vie religieuse sera toujours un signe contradictoire. Et pourquoi ? Parce que l'Évangile, parce que Jésus a été signe de contradiction dès son enfance. Parce que si on suit Jésus et qu'on prend l'Évangile comme code de la route, entre guillemets, comme guide de vie, ben, ce sera contradictoire. Rien que cette petite parole, « Aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Rien que déjà pour se l'approprier soi, c'est déjà une contradiction et on a besoin déjà de temps pour vivre cette parole. Alors après, forcément qu'on devient signe de contradiction pour d'autres.
Père Philippe Lefebvre, il y a aussi ce paradoxe dans la vie religieuse, c'est qu'effectivement, donc, il y a ce choix qui est radical de se donner totalement, et en même temps, c'est un choix qui n'est pas très visible aux yeux du monde. Enfin, on a tous, évidemment, dans l'imaginaire collectif, l'image de la bonne sœur, pardonnez-moi, ou de Don Camillo, le prêtre. Mais aujourd'hui, la vie religieuse, elle n'est pas sous les feux des projecteurs dans notre monde.
C'est peut-être une chance aussi. C'est-à-dire, ça permet de rencontrer tout un monde qu'on ne rencontre pas obligatoirement dans nos églises ou dans nos cercles. Comme dominicain, par exemple, hein, notre fondateur, Saint Dominique, disait justement, il faut aller sortir des frontières habituelles, à la fois se former dans les universités où on enseigne la théologie, et puis aller dans d'autres mondes que les nôtres. Et donc, il y a aussi le fait qu'on est moins connu, moins sous les feux de l'actualité, fait qu'on peut peut-être accéder plus facilement à certains milieux. Moi, quelquefois, je vais dans des colloques ou des choses comme ça, pas spécialement religieux, et c'est l'occasion de rencontrer, de pouvoir témoigner non seulement de la foi, mais que c'est pas idiot. Que ça se comprend, ça se conçoit, ça s'explique et ça donne du fruit. Et donc, tout est bon, d'une certaine manière.
On va voir justement cette fécondité. Juste avant la pause, Véronique, dernière question.
Justement, un petit mot sur cette fécondité pour qu'on comprenne bien. Parce que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas... Non, justement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, si j'ose dire. Et ça se traduit comment pour que les auditeurs et téléspectateurs comprennent bien ?
ça se traduit par une certaine manière de ne pas entrer dans les jeux autant que possible du pouvoir et de l'avoir habituel. Hein, par exemple, moi, je reçois un salaire que je donne à la communauté où je vis et qui sert à payer les études de frères dominicains qui viennent de pays où ils ne pourraient pas le faire. Donc, en fait, je n'ai jamais d'argent et je gagne ma vie en prêchant des retraites, etc. Parce que... C'est une manière aussi de ne pas entrer dans une certaine course au profit ou au vedettariat que le monde promeut. Donc, on est du monde, mais on n'entre pas tout à fait dans ces stratégies habituelles.
Dernière réflexion, oui, sur Élise, avant la pause.
Ajouter pour aller dans ce sens-là, que je crois que la vie cachée donne aussi un crédit d'authenticité. Vous voyez, quelque chose qui est caché, voilà, pas pour le préserver, ni pour le cacher dans le sens secret, mais voilà, ça donne aussi une petite note d'authenticité, voilà, qu'on suit vraiment le Christ et pas ses propres inclinations, voilà, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Et peut-être on témoigne aussi on est dans le monde, dans notre proximité qu'on a avec les gens qu'on rencontre et dans l'intercession. Vous voyez, cette prière, on porte le monde dans la prière. Les religieux sont vraiment cette fraternité universelle. Vous voyez, si on donne notre vie, c'est pour être frères et sœurs de tous ceux qu'on rencontre finalement.
On va voir ça concrètement dans vos témoignages, vos propres témoignages. Pourquoi avez-vous choisi de vous donner tout entier à Dieu? On en parle avec nos invités. Vous restez à notre écoute, bien sûr. À tout de suite. Nous parlons de la vie consacrée de ces hommes et ces femmes, des religieux et des religieuses qui ont donné toute leur vie à Dieu, au Christ. Pourquoi ont-ils fait ce choix qui est résolument à contre-courant de notre société? On en parle aujourd'hui avec la sœur Élise, qui est religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, avec le père Philippe Lefebvre, qui est dominicain bibliste à l'université de Fribourg, en Suisse, avec également Daniel Audon-Hurel, qui est historien et directeur de recherche au CNRS, auteur d'une somme sur les bénédictins chez Robert Laffont. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Elle nous parlera de Saint Bernard, un moine qui a réformé son ordre. Et bien sûr, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, sœur Élise, pourquoi avez-vous choisi cet engagement radical de la vie religieuse et particulièrement dans cet ordre que l'on dit apostolique? Alors, il faut faire là une petite distinction, effectivement. Mm-hmm. Il y a les ordres religieux contemplatifs qui sont derrière une clôture et qui prient. On parlera tout à l'heure des bénédictins. Vous êtes apostolique, c'est-à-dire que vous allez à la rencontre des personnes et notamment des personnes âgées, des personnes pauvres. Pourquoi avez-vous fait ce choix, justement?
Parce que j'ai rencontré Jésus, tout simplement. Je l'ai rencontré à deux moments importants dans ma vie. Donc, je suis partie en Pologne en 2003 avec mon petit ami pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire. Et là, j'ai vraiment, à Wagivniki, le sanctuaire de la miséricorde, là, j'ai rencontré Jésus et j'ai senti un appel très fort devant cette icône de Jésus miséricordieux, de me sentir aimé, reconnu. Connu, enfin voilà, avec cette parole du prophète Jérémie, je t'ai aimé depuis toute éternité. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'étais pas en paix avant. Et cet appel-là, une paix immense, une joie profonde, une certitude, c'est ça. Vous savez, quand vous savez que l'appel de Dieu, c'est pas quelque chose d'extérieur comme un appel sur un portable, c'est un appel intérieur qui vous lâche pas en fait. Et là, j'ai senti vraiment une paix très très grande.
Mais vous aviez le choix de refuser ?
Exactement. Je me sentais libre de dire oui ou de dire non.
Et vous avez dit oui.
Et je me suis dit, bah oui, en fait, je peux pas. On avait mal commencé. Vous savez, des fois, on se met ensemble ou on choisit quelque chose parce qu'on a peur que Dieu ne nous donne pas. Et en fait, on n'avait pas pris le temps de recevoir sa mission. Et je peux pas rendre quelqu'un heureux si j'ai pas reçu ma mission de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a décidé d'arrêter et puis de remettre les choses, de commencer à genoux devant le Seigneur pour dire, voilà, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Et ça, c'est vraiment une question qui... Ça remet les choses, ouais, les pendules à l'heure, entre guillemets. Et puis ensuite, un an après, j'ai eu la chance de rencontrer les petites sœurs des pauvres. Et là, c'était aussi lumineux. Une petite sœur que j'ai rencontrée à la sortie d'une église, elle faisait la quête, m'a dit, mais venez nous voir. Elle m'a parlé des personnes âgées d'une manière tellement belle que je suis allée passer une semaine après les partiels. Donc j'étais étudiante à ce moment-là. Et je leur ai dit, moi, je veux tout voir. Je veux pas voir juste l'accompagnement des personnes âgées. Je veux voir comment vous vivez. Je veux passer une semaine, mais tout. Et là, j'ai passé une semaine magnifique. Une paix, une joie dans cette maison. Il y avait une dame qui était en fin de vie, donc accompagnement aussi de quelqu'un qui est parti paisiblement. Et là, j'ai rencontré le Seigneur vraiment dans les plus pauvres, en donnant à manger à une personne âgée. Et je regardais le crucifix. Dans nos salles à manger, il y a toujours un crucifix, le temps qu'elle finisse d'avaler. Et en fait, il y a une dame derrière qui était, que je n'avais pas entendu parler, qui était complètement paralysée, qui parlait peu ou pas, et qui a crié ce « j'ai soif ». Et moi, en regardant le crucifix, ce cri en fait m'a bouleversée, comme si Jésus m'attendait là. Et je suis allée donner ce verre d'eau à cette dame, et j'oublierai jamais son regard. Elle s'appelait Germaine. Vous savez, il y a des personnes ou des prénoms que vous n'oubliez pas. Et dans ce regard, c'est comme si le Seigneur me disait « c'est là ». C'est là que tu pourras tout donner, que je t'attends.
Mais là encore, c'est un choix à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées, on ne veut pas forcément les voir, on les cache, ou on s'en occupe mal. Et justement, vous avez fait ce choix-là.
Oui, parce qu'il y a une joie immense. Les personnes âgées, pour moi, c'est nos racines, c'est une sagesse, c'est un humour pétillant. Et aussi, c'est le choix de pouvoir accompagner la personne dans la durée. Je ne pouvais pas accompagner quelqu'un juste pour donner des repas. Je suis allée voir chez les Sœurs de Mère Teresa. Mais il y a quelque chose, vous savez, je me souviens, je suis allée chez les Sœurs de Mère Teresa et on donnait à manger à 350 personnes. Et une personne âgée s'est mise à pleurer après le repas. Et je suis allée le voir, on commence à parler. Et il me dit, ben maintenant je vais passer tout le reste de la journée dans le métro, dans la rue. Et moi je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux faire. Je veux vraiment que cette personne âgée, elle soit accueillie, nourrie, logée et m'en occuper jusqu'au bout.
Comme dans une famille.
Comme dans une famille. Et ça, c'est Jeanne Jugand.
Donc la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres au XIXe siècle. Père Philippe Lefebvre, il y a le choix initial de s'engager dans la vie religieuse. Et puis ensuite, il y a toute la vie. Et est-ce que finalement, ce n'est pas le plus difficile Vous avez 33 ans de vie religieuse avec, on l'imagine, des joies, des difficultés. Comment est-ce qu'on tient dans la durée, comme ce vieillard Siméon ou cette prophétesse Anne, dans la fête de la présentation de Jésus au Temple, qui a été célébrée le 2 février, la chandeleur, donc, comment est-ce qu'on garde son zèle intact? Comment on a en soi un feu qui dure?
Ah, vaste question. Pour moi, je dirais que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis rentré dans la vie religieuse, d'ailleurs, quand j'ai découvert la Bible. Je l'ai découvert chez les bénédictins, justement, en entendant les psaumes. Et je me suis dit, je faisais une retraite, j'avais 17 ans. Je me suis dit, c'est un truc comme ça que je voudrais faire. Mais je connaissais rien à rien. Mais parce que c'était une parole qui voulait dire quelque chose. Et pas immédiatement discuter, tout ça, mais la parole des psaumes. Et même à un moment, je suis sorti d'une des prières parce que je me suis dit, mais ce psaume raconte ma vie, mais pourquoi ils font ça en public? Et non, c'était un psaume, mais je m'étais senti concerné. Et donc, c'est ça que j'ai recherché pendant longtemps. Je ne suis pas rentré jeune dans la vie religieuse, mais avec toujours ce souci de la parole. Où est-ce qu'il y a une parole qui veut dire quelque chose et qui permet de tenir, de comprendre. Et alors, c'est à l'issue de toute une série d'événements, d'expériences que je suis rentré chez les dominicains parce que la parole y est importante. On parle, on prêche, et puis on étudie la Bible. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai même fait ma thèse à la Sorbonne, mais en Bible, ce qui est étonnant, mais tout arrive.
Et, y compris en France.
Et je peux dire que c'est la parole et la parole de Dieu qui me tient. C'est mon fil rouge, c'est ce à quoi je me raccroche quand toutes les paroles du monde, et je trouve qu'on est dans un monde où la parole est agressée, enfin, on ne dit plus,
elle est galvaudée.
Oui, elle est galvaudée bien souvent dans toutes sortes de milieux, et donc moi c'est la parole.
La
parole de vérité, le Christ comme parole, comme verbe, c'est-à-dire c'est dans la chair que ça se passe, la parole, c'est pas les idées sûres, c'est dans la chair.
Véronique Jacquier.
Vos témoignages sont magnifiques, mais comment expliquer à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent que cette lumière que vous avez découverte et que vous avez en vous, que vous portez, est aussi pour eux? Qu'est-ce que vous leur dites? Cette lumière du monde, elle doit les éclairer également, même ceux qui sont loin du Christ.
Ben, je crois qu'elle les, elle les éclaire.
Et sur Élise aussi.
Elle les éclaire beaucoup. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont loin de nos milieux. Et moi, ce sont des gens que je fréquente volontiers et qui portent quelque chose. Quelquefois, il y a des rencontres qui se font. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont se convertir, se faire baptiser, mais ils sont dans ils portent quelque chose, ils ont perçu quelque chose de la vie, de la grandeur de la vie, dans des difficultés quelquefois immenses qu'ils peuvent vivre. Et ce sont des témoins sans le savoir. Et quelquefois, quand j'ai été ordonné, je suis allé tout de suite après prêcher une retraite. J'étais dans un train, c'était l'été, il faisait une chaleur folle, donc je n'étais pas du tout en habit religieux. Et il y a un jeune beurre qui s'approche de moi et qui me dit... Vous êtes un gars qui lit la Bible, non ? J'ai dit oui, comment entre autres ? Et il revient après, il me dit, vous êtes prêtre catholique, non ? Mais j'ai dit, vous le savez comment ? Il m'a fait, je le sens. Bon. Et moi, c'est un peu ces gens-là, près de qui je dirais pas je vais, mais que je trouve sur mon chemin, ou qui me trouve d'ailleurs quelquefois, qui m'évangélise aussi. Et donc, je me dis, rien n'est si perdu que ça. Il y a de la vie, de la foi, sous des formes qui ne sont pas accréditées, si vous voulez, pas toujours religieuses, estampillées religieuses, mais c'est bien de cela dont il est question. La vraie vie, la vraie parole, et Dieu derrière qui fait un petit coucou en disant « Oui, oui, ils ne me connaissent pas, mais moi je les connais. »
Est-ce que ce n'est pas aussi, sœur Élise, la force de votre habit de religieux qui, là encore, interpelle forcément sur le choix que vous avez fait ?
Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est très important d'être un signe, mais visible. Quel que soit le moment, quelles que soient les époques, les sociétés qu'on traverse. Mais je crois que, par exemple, nous, quand on va en quête, puisqu'on vit de la Providence, on vit de dons, c'est magnifique d'être en habit. Alors, des fois, vous avez toutes les réactions possibles, mais on sait tout de suite qui vous êtes. Ils savent qu'on est religieuse, ils savent qu'on a tout donné à Dieu, ou alors ils en profitent pour poser une question. Ou alors, au Pérou, par exemple, tout de suite, ils viennent demander une prière. Les gens, et on prie ensemble comme ça en plein milieu d'un magasin. Ou en France, et souvent, ce sont nos frères musulmans. Bonjour, ma sœur. Ça fait tellement de bien. Moi, je réponds toujours bonjour, mon frère. Ça fait,
au lieu de dire bonjour, madame.
Au lieu de dire bonjour, madame. Voilà, ça
fait arriver aussi.
Exactement. Si on est frères et sœurs, on montre qu'on a un seul père, que Dieu est notre père et qu'on est tous frères et sœurs. Qu'on est une grande famille, la famille humaine, c'est ça, et que Dieu a confié chacun à l'amour de tous, finalement.
Alors, parlons aussi de l'histoire plus ancienne de ces religieux, et notamment de cet ordre, les bénédictins, qui est un des plus anciens, fondé donc par saint Benoît avec sa règle au VIe siècle, la règle de saint Benoît, un petit texte qui constitue en quelque sorte l'ADN de la vie monastique depuis Charlemagne jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une longévité quand même assez extraordinaire. Je vous propose de regarder ce reportage chez justement des bénédictins de Fontgombault, c'est dans l'Indre, et puis ensuite, Daniel Audon-Hurel, vous nous expliquerez ce qui fait le secret de cette longévité. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
Comme le veut la règle de Saint-Benoît, ces moines de l'abbaye de Fontgombault exercent tous une activité manuelle. Ce jour-là, c'est le ramassage du raisin. La production servira à la consommation de la communauté, mais aussi à la liturgie. Pour ces consacrés qui vivent à la lumière de l'Évangile, travailler dans les vignes est très symbolique.
Le Seigneur se compare lui-même à une vigne, où il dit je suis la vigne et vous les sarments. Les sarments, ce sont les chrétiens, en nous invitant par là à nous unir au Seigneur. Et cette invitation du Seigneur se réalise pleinement au moment de l'Eucharistie, ou à travers la consécration du vin. Donc ce travail des hommes qui vont venir présenter le vin comme une offrande qui va servir pour devenir le sang du Seigneur, c'est une symbolique qui nous oriente à l'union vers le Seigneur. Et c'est aussi bien orienté dans notre vie monastique, parce que le moine cherche à être en contact avec le Seigneur au cours de sa journée, soit par les offices, soit dans les temps de prière personnelle. Et donc ce travail de la vigne, ça nous donne dans le concret ce que nous devons vivre spirituellement dans la foi et dans la vie intérieure ensuite.
Des travaux complétés par une vie intense de prière. Dans l'abbatiale, les moines prient 8 offices qui rythment la journée, du lever au coucher du soleil, le tout en grégorien. La messe de la communauté est célébrée après l'office de tierce selon le rite tridentin, un cadre strict qui a un objectif bien particulier, comme nous l'explique ce père qui vit cloîtré depuis 1972.
Si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on rentre dans le monastère, c'est parce qu'on se sent fragile. Donc c'est une sécurité finalement. Et la règle nous met dans un cadre favorable, hein, qui nous protège un peu contre nous-mêmes. Finalement, on est entre quatre murs et on ne peut voir que le ciel.
Les bénédictins sont à Fongombeau depuis 1948. La communauté compte aujourd'hui une soixantaine de moines et chaque année, elle accueille de nouvelles vocations.
Alors Daniel Audon-Hurel, vous êtes un spécialiste en quelque sorte des bénédictins. Hein. Vous êtes, je le rappelle, historien et chercheur au CNRS. Alors comment expliquer cette longévité bénédictine, hein, encore une fois, depuis le VIe siècle? Est-ce que c'est notamment cet équilibre de la règle entre la prière et le travail qui fait que cet ordre a pu perdurer à travers les siècles?
Oui, alors c'est évidemment une très 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 longue histoire. Je vais faire le lien avec ce qui a été dit précédemment.
Allez-y, je vous en prie.
Parce que ça me paraît assez, assez intéressant. Et pour l'historien, il est toujours difficile pour l'historien de lire des récits de vocation, en fait. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était quelque part deux récits oraux de vocation, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement l'historien, il comprend ou il connaît que les grandes figures, parce que les grandes figures ont écrit. Et puis les autres, c'est-à-dire
les anonymes,
c'est-à-dire les religieux et les religieuses, dans leur essentiel, ont écrit pour eux parfois. Voilà, mais rarement l'histoire a retenu et l'histoire des sources a retenu cela. Donc ça c'est évidemment important. Par rapport à, évidemment à cette règle de Saint Benoît, je crois que Benoît a longtemps été considéré comme le fondateur, alors qu'il a rien, enfin il a rien fondé. Si, il a fondé Subiaco et il a fondé le Mont Cassin, mais il n'a pas fondé d'ordre, au sens où sa règle est déjà l'équilibre de la règle, c'est parce qu'elle est constituée à la fois de son expérience personnelle, mais aussi parce que c'est un immense lecteur et qu'il a lu Basile et qu'il a lu Lorient et qu'il a lu Cassien et qu'il a fait cette espèce de synthèse extrêmement humaine liée à l'expérience, tout simplement, à un temps donné. Et il en a fait ce petit texte, hein, qu'on a souvent isolé un petit peu. Alors que ce petit texte, s'il a survécu et qu'il vit très activement encore à l'heure actuelle dans sa multiplicité de traditions, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais existé tout seul. C'est-à-dire que la règle toute seule, elle n'existe pas. Elle est incarnée immédiatement, évidemment. Par les communautés. Elle est lue tous les jours. Elle est interprétée, commentée, adaptée, ne serait-ce que par le supérieur, dans son monastère tous les jours.
Elle est vivante, supérieure. En quelque sorte.
Elle est vivante. Et donc, cette histoire-là l'a fatalement adaptée à toutes les situations, à toutes les situations de l'histoire. Et c'est pour ça que, derrière la notion d'ordre de Saint-Benoît, il faut faire attention, ce n'est pas un bloc, évidemment. Hein, ce n'est pas un bloc. C'est une espèce de diversité. Hein. Les cisterciens sont aussi bénédictins que les moines de Fongombeau qu'on vient de voir, par exemple.
Mais comment expliquer qu'aujourd'hui encore, c'est soit l'exigence, on a vu Fongombeau, mais on pourrait parler d'autres monastères aujourd'hui qui ont des vocations, qui attirent des vocations, c'est l'exigence qui attire les jeunes vocations aujourd'hui?
Alors c'est un vrai sujet, évidemment, c'est un vrai sujet. Même dans l'histoire, les renouvellements, les réformes, tous ces moments-là sont nés à une relecture des sources, à un retour aux sources. Par exemple, à la fin du Moyen-Âge, les moines bénédictins cisterciens se sont très sensiblement éloignés des principes de vie commune, de pauvreté individuelle.
Il y a eu un relâchement.
Alors, on va l'appeler, on l'appelait relâchement.
De manière globale.
Voilà, globale. L'historien ne va pas dire forcément relâchement parce que l'historien ne peut pas apporter des jugements de valeur. Et derrière relâchement ou derrière décadence, on n'emploie plus évidemment ces termes pour nous, les historiens, c'est un rapport au monde qui est compliqué, c'est un oubli, quelque part, des principes fondamentaux. Et à chaque fois, c'est des relectures qui réamènent, qui amènent un renouveau. Alors ce renouveau, il a plein de couleurs différentes. Hein.
Alors justement, je voudrais qu'on parle de celui de Saint-Bernard, parce qu'il a été éminent, et en fait, cette année, donc, les 850 ans de sa canonisation, Véronique. Racontez-nous justement, qu'est-ce que Saint-Bernard a apporté, et comment a-t-il surtout réformé son ordre? Comment ça peut nous instruire pour aujourd'hui aussi?
Alors Saint-Bernard, c'est Saint-Bernard de Clairvaux, le grand Saint-Bernard, un homme qui a vraiment marqué et son temps, le XIIe siècle, et tout l'Occident. Alors il rentre dans l'abbaye de Citeaux à seulement 22 ans. Il était issu de la petite noblesse bourguignonne. Citeaux, c'est à 25 km de Dijon, et il ne rentre pas seul. C'était déjà un sacré meneur d'hommes, puisqu'il arrive avec une trentaine de personnes, dont des membres de sa famille, pour mener une rude vie de moine. Hein. Il sait ce à quoi il s'engage. Citeaux, à l'époque, justement, a une particularité, c'est que c'est une abbaye bénédictine qui aspire à revenir à la règle de Saint-Benoît, ce que vous venez d'expliquer. Saint-Benoît, donc moine italien du VIe siècle, qui instaure une règle qui repose sur obéissance, humilité, travail et bien entendu esprit de silence. Alors, Citeaux est la seule, à l'époque, à avoir cette exigence, parce que non loin de là, il y a la grande abbaye de Cluny, une puissante congrégation avec des milliers de moines et des milliers de monastères qui est au fait de sa renommée. Et en fait, Cluny en Bourgogne, c'est une abbaye extrêmement puissante, hein, plus puissante à l'époque que certains rois. Une puissance politique, une implication dans les affaires du monde, de grandes terres, et puis des moines qui vivent de moins en moins comme des moines parce que, vous l'avez dit, Daniel Auron-Hurel, il s'éloigne de la source, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'esprit de pauvreté, il s'éloigne de l'esprit de prière, la mondanité, quelque part, est un petit peu rentrée dans le monastère. Alors, quand Saint-Bernard rentre à Citeaux, il est, dans ses aspirations à une vie de prière et d'humilité, une nouvelle incarnation, puisque vous avez utilisé le mot d'incarnation, une nouvelle incarnation de l'esprit de la règle de Saint-Benoît. Et à 25 ans, le père abbé de Citeaux ne se trompe pas, il a du nez, il se dit, lui, c'est l'homme qu'il me faut pour donner un nouvel essor à la règle bénédictine, et Citeaux va donner l'ordre cistercien. Et donc, il va fonder l'abbaye de Clairvaux en Champagne. Il part avec 12 moines, très vite, c'est un incroyable succès, il y aura plus de 500 moines, et Saint-Bernard, à seulement 25 ans, devient le père abbé de cette abbaye. Il est connu pour ses méditations, il est connu pour ses enseignements. Sa notoriété non seulement dépasse les murs de Clairvaux, mais même les murs de la France, hein, puisqu'il sera connu dans toute l'Europe, et que sa fécondité reposera dans la fondation de nouvelles abbayes, c'est-à-dire qu'en 35 ans, il va en créer 69. À sa mort, en 1153, il y aura 345 monastères cisterciens, dont 167 qui dépendent de la règle de Clairvaux. Donc c'est un succès incroyable qui repose et sur son charisme, et sur justement le retour à la source.
Merci Véronique. Alors justement, la clé de cette histoire et de celle aussi des réformes de l'ordre de Saint-Benoît, mais de tous les ordres religieux finalement, ce besoin de réformes régulières, est-ce que ça implique aussi un certain, renoncement ou une austérité dans la vie religieuse qui n'est pas forcément apparente, mais qui constitue, il faut commencer, sœur Élise, par se réformer soi-même finalement, et ça dans la vie religieuse, c'est choisir, c'est renoncer à un certain nombre de choses du monde, évidemment, auxquelles on peut penser, le mariage, etc.
C'est ça, il faut commencer par se connaître. Il y a tout un travail sur soi pour voir comment, voilà, bien se connaître. Et puis ensuite, voilà, renoncer, je dirais renoncer pour se dépasser. Pas un renoncement morbide, fermé. En fait, il faut que ça dilate. Le renoncement, il faut que ça ouvre. Il faut que ça rend heureux. Vous voyez, des fois, si au lieu d'avoir des affiches publicitaires où c'est marqué « Faites-vous plaisir, profitez », si on mettait « Renoncez, dépassez-vous », en fait, on ferait un carton. Parce que c'est ça qui... Enfin, je veux dire, c'est... Et on ne peut pas aller plus haut. Quand on est tiré vers le haut, on est heureux. Si on est tiré vers le bas, on devient médiocre, malheureux. Et après, on se dégoûte de la vie, de soi-même, en fait.
Daniel Audon-Hurel, 7 à 16 dans la vie religieuse.
Mais oui, 7 à 16, et surtout ce renoncement individuel, je pense que ça explique... C'est une manière d'expliquer aussi bien l'histoire de Saint-Bernard que l'histoire de quantité d'autres réformateurs beaucoup moins connus, y compris au XVIIe siècle, que je connais un peu mieux, à la fin du XVIe au XVIIe siècle, des hommes comme Rancé, des hommes comme même quelque part comme ceux qui ont fondé la congrégation de Saint-Maur, hein, celle du célèbre Jean Mabillon et Jean Mabillon lui-même quelque part, c'est que les réformes sont souvent le fruit au départ d'individus, dans un monde qui normalement apprend en fait plutôt la désappropriation, la renonciation à la volonté propre, mais n'empêche que la réforme, le retour vient souvent d'individus. Et après, c'est le même cas.
Faut
du caractère. C'est le même cas avec Antoinette d'Orléans et les bénédictines du Calvaire. C'est la même chose avec Catherine de Bar et les bénédictines du Saint-Sacrement. C'est la même chose. Enfin, voilà, on pourrait multiplier les exemples. C'est l'individu qui, pour. Alors, ça, l'historien, il ne peut évidemment pas le savoir hein, complètement, mais pourquoi tout d'un coup il se réveille un matin en reprenant la règle, par exemple, et en disant ça ne va pas voilà. Alors, il y a des contextes qui expliquent ça. Il y a des injonctions réformatrices qui viennent du Saint-Siège, qui viennent du Concile de Trente, qui viennent de tas d'endroits. Mais n'empêche que ça se joue par un renoncement individuel à un moment donné, quelle que soit la période, je pense.
Père Philippe Lefebvre, votre fondateur, Saint-Dominique, lui aussi a constitué d'une certaine manière, à un moment donné, une réforme, ou en tout cas a créé un ordre mendiant. Hein, vous alliez effectivement à travers les routes. Donc il y a ce choix radical. Comment est-ce que aujourd'hui cette vie religieuse, elle est prophétique finalement de quelque chose d'autre ? Du ciel finalement hein, si on va au bout des choses et qui explique ce choix de renoncer à tout parfois.
Je pense que Saint-Dominique était vraiment un homme de son époque qui était comme elle était, avec toutes ses difficultés aussi, et qu'il avait aussi en vue pour les frères de dire il y a d'autres personnes aussi dans le monde qui vivent durement. C'est-à-dire les renoncements de la vie religieuse nous mettent au diapason de beaucoup de gens autour de nous qui renoncent ou quelquefois la vie de famille, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, ne pas avoir de boulot, ça peut être... Et je pense qu'on est appelé, enfin pour moi c'est pas les religieux sont un modèle et puis le monde doit s'y conformer s'il peut un petit peu, c'est dans les deux sens et moi je suis admiratif de beaucoup de personnes que je rencontre et que nous rencontrons comme dominicains et qui, d'une manière ou d'une autre, aussi nous revivifient dans nos propres vœux et quelquefois avec des vies compliquées. Une chose, dans l'évangile, vous savez, les deux fois dans les évangiles synoptiques où Jésus parle de la foi, c'est le centurion romain et la cananéenne qui vient obstinément vers lui, même si les disciples veulent la chasser. Et grande est ta foi, que tout se passe comme tu veux. Jésus n'emploie cette expression comme tu veux qu'une seule autre fois, c'est lors de sa passion pour son père. C'est-à-dire que ce qu'il dit avec cette femme, c'est le père qui est là et qui préside à tout ça, sachant qu'elle est une cananéenne païenne, mais qui a compris quelque chose d'essentiel de la vie et de qui était Jésus.
Donc c'est prophétique pour le monde, pour les autres. Véronique, une dernière question.
Oui, dernière question, réponse de sœur Élise, parce que c'est très important. On va peut-être légaliser l'euthanasie. Vous êtes au chevet des mourants, des plus pauvres. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites de ce qui est en train de se tramer ?
Ah. Défendons la vie jusqu'au bout. On est tous des vivants jusqu'à notre dernier souffle. Et prenons soin de nos personnes âgées. Ne permettons pas qu'on peut prendre soin, on doit soulager et on soulage. Il faut soulager absolument la douleur en fin de vie. La fin de vie, c'est un moment tellement important qu'on peut pas, on peut pas le,
on peut pas on rater peut pas, ce moment.
Non, on peut pas rater ce moment. Il se passe tellement de choses. C'est un accomplissement. À chaque fois qu'une personne âgée part en paix, on imagine la mort comme quelque chose, une agonie terrible, une souffrance indicible. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est paisible, la personne a pu dire au revoir, a pu dire adieu. Et moi, à chaque fois, je pense à cette phrase de Jésus, tout est accompli. On est mortel, il faut arrêter de penser que la mort, on pourrait la choisir. Non, on est mortel, ça fait partie de la vie. Qu'on la vive, qu'on vive la vie jusqu'au bout. Je crois que, et prenons soin de nos personnes âgées. Tellement de personnes âgées sont en souffrance ou pensent être un poids. J'aimerais leur dire aujourd'hui, non, tenez bon, enfin... C'est pas un poids, vous avez à vivre encore de belles choses. Et on n'a pas à faire peser, au contraire, sur nos personnes âgées cette épée de Damoclès là. J'aimerais pas qu'on le fasse pour moi.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Malheureusement, cette émission arrive à son terme. Peut-être une dernière citation tirée de la fête dont nous avons parlé, hein, la Chandeleur. Maintenant, vous pouvez laisser votre serviteur s'en aller dans la paix. Voilà un peu effectivement ce que vous vivez au jour le jour chez les petites sœurs des pauvres. Sœur Élise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Père Philippe Lefebvre, d'être venu de Genève où vous enseignez. À Fribourg, c'est en Suisse, l'écriture sainte. Merci Daniel Audon-Hurel, je rappelle le titre aussi de votre ouvrage que vous avez dirigé, donc sur les bénédictins, c'est publié chez Robert Laffont. Merci bien sûr à Véronique Jacquet, à Jade Roger et aux équipes techniques pour la réalisation de cette émission. Et puis la semaine prochaine, nous parlerons, ce sera le 11 février, de Lourdes, mais surtout de Sainte Bernadette qui a un peu disparu derrière la notoriété de Lourdes. Et il s'agit donc de la réhabiliter. Et puis une lecture, Véronique, qu'y a-t-il dans France Catholique cette semaine ?
Un conseil de lecture France Catholique que vous retrouvez sur france-catholique.fr ou sur abonnement et qui fait sa une sur l'Eucharistie. Voilà, qu'est-ce que réellement l'Eucharistie ? C'est pas qu'un simple repas partagé, c'est un sacrifice, le sacrifice du Christ.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission et très bonne journée à notre écoute.